Voilà, on a parlé de la Pentecôte. Déjà, aujourd'hui est la Pentecôte. C'est une fête importante dans le calendrier chrétien. C'est un peu la fin, la dernière étape du ministère de Jésus. Il est venu sur terre, il a vécu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel et il a accompli la dernière promesse qu'il a faite aux disciples d'envoyer son esprit. Et puis c'est en fait un peu le début de la mission des disciples sans leur maître. Jusqu'à l'ascension, ils étaient avec lui. À l'ascension, ils l'ont regardé partir au ciel. Et ensuite, ils ont attendu. Et ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer, si ce n'est que Jésus leur a dit « Attendez que je vous envoie l'Esprit Saint ». Et ils ont attendu. Et leur attente n'a pas été déçue. C'est allé quelques jours et le Saint-Esprit est venu. On a déjà lu le récit de la Pentecôte. Merci Daniel, j'ai gagné un peu de temps dans mon message du coup. On l'affichera simplement, on ne va pas le relire. Où on se rappelle de ce phénomène surnaturel qu'il y a eu, qui a donné aux disciples la puissance. J'ai l'impression que jusque-là, ils faisaient des choses, mais ils étaient un peu... Voilà, ils avaient déjà leur maître avec eux. Donc, quand on a le maître avec soi, on l'observe, on le suit, on n'est pas trop sûr de son coup. On limite peut-être un petit peu. Et là, tout à coup, ils étaient seuls. Et là, ils ont reçu la puissance et aussi finalement la capacité de remplir cette grande mission qu'il leur avait dit, parce qu'il ne leur a pas dit « Je pars et tout s'arrête. Je pars et je vous donne une mission. » Cette grande mission que vous connaissez, qu'on connaît tous, faite de toutes les nations des disciples, il leur avait donné cette mission. Et là, avec le Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance et aussi la capacité de l'accomplir, cette mission. Au-delà de sa signification, je vais aussi prendre quelques instants pour voir l'impact et les conséquences que ça a eu sur le peuple entier de l'époque. Ça sera la fin du chapitre qu'on n'a pas lu. Qu'est-ce qu'il y a eu comme impact? C'était pas rien. Ça a eu un impact réel et à faire quelques comparaisons avec l'impact qu'a aujourd'hui cette Pentecôte qui a eu lieu il y a bientôt 2000 ans. Est-ce que cet impact est encore réel? Première question. Est-ce qu'il se manifeste de la même manière qu'à l'époque des premiers disciples ou différemment? Donc faire un peu ce parallèle entre la Pentecôte de l'an zéro et l'Église, nous aujourd'hui, qui sommes toujours au bénéfice de cette Pentecôte. Il n'y a pas eu une fois, ça s'est éteint, c'était le début de ce feu, de ces flammes qui sont venues sur les disciples. Et on en a parlé aussi durant la louange, ce feu qui brûle dans nos cœurs. Alors, je n'ai pas vu ce soir des flammes sur vos têtes, peut-être que certains ont vu ça, moi je ne l'ai pas vu. Mais le feu, c'est ce symbole de l'esprit qui est dans nos cœurs et qui brûle dans nos cœurs et qui brûle aussi dans l'Église. À la fin, on n'aura pas de temps de partage aujourd'hui, mais je souhaiterais avoir un temps de prière. On va passer un temps de prière pour demander à Dieu de nous baptiser ou de nous rebaptiser de l'Esprit Saint, de pouvoir continuer cette marche dans la mission qu'il nous a confiée. Et je pense que parfois, c'est bien qu'il nous redonne, qu'il nous remplisse de nouveau. C'est un peu comme ces rivières qui s'assèchent parfois. La source coule encore un petit peu, mais qu'on puisse demander ce soir que cette source déborde, cette source dans nos cœurs qui est là, qui est peut-être un petit filet ce soir. J'avais un peu cette image quand on chantait qu'il y a juste quelques gouttes qui tombent. J'avais un peu l'image d'une chenot comme ça, qui avait juste un trou, puis il y a des petites gouttes qui tombaient. Et je ne savais pas trop comment interpréter ça, je vous le dis. Ça peut dire juste quelques gouttes, mais je le voyais plutôt positivement. S'il n'y a qu'une goutte du Saint-Esprit qui tombe dans nos cœurs, elle peut faire, j'ai envie de dire, beaucoup plus d'effet qu'une quantité d'autres choses. Donc ici, c'est clair, l'effusion de Saint-Esprit, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, il y a eu quelque chose de manifeste, il y a quelque chose de waouh, de miraculeux. Mais le Saint-Esprit, c'est parfois aussi une goutte qui tombe ou un petit filet qui tombe dans nos cœurs. Peut-être qu'on a juste besoin de ça, parfois, pour déjà se connecter. Et ça peut être des fois des torrents plus importants. Mais l'important, c'est d'être connecté, d'être connecté à cette source. Donc la Pentecôte, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut juste mettre le PowerPoint en route? Voilà, donc le texte est là. Comme ça, vous pouvez aussi le relire. On ne va pas le relire, mais C'est le texte que nous a lu Daniel tout à l'heure. Ce texte se trouve dans les Actes des Apôtres, hein, qui est un livre assez particulier, qui est aussi assez unique dans la Bible. Hein, c'est le seul qui présente vraiment le début de l'Église chrétienne. Et puis c'est un peu le lien entre les évangiles, où Jésus était sur terre, il a manifesté son œuvre, et puis nous avons ensuite toutes les lettres que Paul a envoyées aux églises déjà constituées. Et puis la Pentecôte inaugure ce livre des Actes. Et on voit ici, c'est l'interprétation que font aussi les exégètes, de dire que c'est un peu un renversement d'une forme de malédiction. Vous connaissez la tour de Babel, hein, dans la Bible. Tout à coup, les gens ne se comprenaient plus. Diverses langues, ils ne se comprenaient plus. Ça a été une confusion. Et là, les apôtres sont remplis d'Esprit Saint. Et ce qu'ils disent, c'est compris dans toutes les langues présentes. Et là, ça pose les fondements d'une église qui ne s'est pas limitée aux premiers disciples, aux juifs, mais qui est devenue polyglotte, mondiale, multiethnique, et qui s'ouvre aux non-juifs, comme il parlait aussi dans l'Acte des Apôtres, aux non-juifs et aux païens. Vous savez qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? Je pense que beaucoup le savent. Luc, ouais. C'est le même qui a écrit l'Évangile de Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres. Alors peut-être que ça vous surprend, peut-être que vous ne saviez pas. C'est le médecin Luc qui a écrit ça. Et il a adressé sa lettre à un certain Théophile. Donc c'est un homme influent et honoré qui était proche du pouvoir romain, on pense. Et puis ça a été écrit quand Paul était, très probablement quand il était à Rome, et que ça a été même aussi écrit à Rome dans les années 60. Il y a beaucoup d'éléments historiques dans le livre des Actes, mais ce n'est pas seulement un des éléments historiques, hein, comme vous l'avez aussi déjà remarqué, comme on le lit dans le récit de la Pentecôte, mais on voit comment l'Esprit de Dieu agit à travers les autres, à travers les apôtres, dans la vie des gens. Et ce qui est aussi beau de voir comment il agit aussi bien pour montrer comment l'Esprit Saint agit dans les cœurs des Juifs, mais aussi des non-Juifs. Et voilà le chapitre 1 qui précède ce chapitre 2. Là, on voit ce que les disciples font, et donc ils sont en attente d'une promesse que Jésus a faite et que nous lisons donc dans Acte 1. Il leur dit deux choses. Il leur dit « Dans peu de jours, vous serez baptisés ». Donc, il leur donne un espace-temps. Avec Dieu, des fois, l'espace-temps, un peu de jours, ça peut être long. Je ne sais pas comment ils comprenaient ça. Là, je pense que c'était assez terre-à-terre. Ils se sont dit, si Jésus nous dit peu de jours, ben j'espère que ça sera peu de jours. Hein, on dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour dans notre chapitre. Donc, ça peut des fois être, la notion de temps peut être un peu difficile des fois à comprendre. Mais là, je pense qu'ils se mettaient au niveau du temps qui passe, chronologique. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis, la deuxième promesse, vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà dans quel état ils étaient quand la Pentecôte est arrivée. Et on l'a lu, hein, ils étaient là, et je retiendrai deux choses déjà de cette première partie de Acte 2, le verset 1 à 13 que vous avez aussi projeté avec le bimère. Il a dit qu'ils étaient tous ensemble au même endroit. Donc il y avait déjà quelque chose, ils étaient de l'unité, ils étaient tous ensemble, ils étaient rassemblés. Donc dans cette attente, on peut des fois dans des attentes aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on attend quelque chose? On peut un peu partir dans tous les sens, mais là ils se sont dit, on va rester ensemble. On a été ensemble avec le Maître, on va rester ensemble, il nous a fait une promesse, et ils étaient aussi rassemblés. Et après, il nous a dit « tout à coup ». Alors le « tout à coup », ici, il est un peu relatif. D'un côté, il y a le « tout à coup » parce que c'est arrivé comme ça, boum. Hein? Mais en même temps, le « tout à coup », c'était quelque chose qui était attendu. Ce « tout à coup », c'est un peu le temps, on parle du temps kairos, hein? C'est un peu le moment que Dieu a décidé. Et des fois, le moment que Dieu décide pour nous, c'est un temps des fois particulier qui est à côté. Nous, on a le temps chronos, le temps qui passe avec nos minutes, nos secondes, nos heures. Et on planifie que dans 24 heures, il y aura tel rendez-vous, et puis le lendemain, il y aura tel rendez-vous. Ça, c'est le temps pour nous. On n'est pas beaucoup plus fort que de pouvoir un peu s'imaginer un, deux jours peut-être, mais sinon, c'est le temps qui passe, et puis on vit ce temps qui passe. Et là-dedans, Il y a le temps de Dieu. Et je pense que c'était vraiment un temps que Dieu a décidé ici, maintenant, j'envoie mon Esprit Saint. Et ce qui est beau, je trouve ici, il est écrit, ils étaient tous remplis. Il y a ces tous et tous. Pas de discrimination. Pas d'exception. En tout cas, on ne nous rapporte pas, on ne dit pas tous, sauf l'autre. Il n'était pas encore prêt, lui pas encore. Lui, j'attends, crains Dieu. Tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pas de traitement de faveur. Ils avaient certainement une attente commune, ils avaient un souhait aussi d'obéir à cette promesse. Il leur a dit, attendez, ok, tu nous as dit d'attendre, on attend. Donc ils avaient aussi une crainte de Dieu commune qui les reliait et qui a fait aussi qu'ils ont été remplis tous du Saint-Esprit. On nous a dit que c'était bruyant, que les gens étaient stupéfaits, ils étaient étonnés, il y a beaucoup de termes comme ça, admiratifs, questionnants. Donc ce phénomène qui se passe dans une chambre où ils étaient réunis, tout à coup il s'étend, il déborde dans la rue et attire la foule. On ne sait pas exactement dans le texte, ce n'est pas dit clairement où ils étaient, mais toujours est-il que ça fait du bruit, que ça s'est entendu et que ça a attiré les gens. Et puis ce qui est particulier, les disciples ils parlent des langues qu'ils n'ont pas apprises. Et chacun, chacune des juifs de naissance ou des juifs convertis, donc il y avait les deux, des juifs de naissance ou des juifs convertis qui étaient présents à Jérusalem. Donc, tu as parlé de Daniel, les 50, qui veut dire voilà, les 50 jours, Pentecôte, mais il y a aussi un lien à la fête de Shavuot, il faut que tu prennes le bon terme. Shavuot, qui est aussi 50 jours, c'est la fête des débuts des moissons ou du don de la Torah. Donc il y avait aussi une fête juive, donc ça veut dire certainement que les gens se réunissaient à Jérusalem, donc il y avait aussi beaucoup de monde. Et c'est peut-être pas pour rien que le Saint-Esprit est venu aussi à ce moment-là. Donc chacun les entendait de sa propre langue. C'est un phénomène extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens parler en langue. Souvent, on ne comprend pas trop ce qu'ils disent. Alors, on peut. Il y a un ami qui m'a dit tu as déjà essayé je parle en langue, peut-être vous le savez ou pas. Il m'a dit tu as déjà essayé avec Siri, voir quelle langue tu parlais. J'ai dit non, je n'ai pas encore essayé. Alors, on a peut-être des outils aujourd'hui qui permettent de savoir si le parler en langue que Dieu nous a donné s'il correspond à une langue réelle. Je n'ai pas encore essayé, je ne sais pas si j'essaierai un jour. Mais en tout cas, ici, ce n'était pas d'une langue inconnue. Donc, il y avait quelque chose qui avait comme objectif de toucher les gens à l'époque et surtout assez extraordinaire. Vous imaginez ces personnes, je pense qu'ils parlaient une langue. On dit que certains étaient même illettrés. Et tout à coup, ils parlent une langue qu'ils n'ont pas apprise. Donc, un réel miracle. Et puis ce phénomène, quand Dieu agit, c'est cette fois ça, il laisse personne indifférent. Les uns se posent des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quand les gens se posent des questions, c'est bien parti, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je pense que quand quelqu'un se pose une question, c'est la porte qui s'ouvre du cœur. Quand on ne se pose pas de questions, c'est des fois plus difficile. C'est comme si le cœur était fermé. Mais quand on se pose des questions, c'est l'occasion pour l'Esprit de Saint aussi d'agir et d'ouvrir notre cœur aussi à Jésus. Alors certains, et puis les autres se sont moqués, ils sont pleins de vin doux. Alors ça peut aussi arriver, un peu de moquerie. Et j'ai envie de dire que c'était tout à fait humain, c'était quand même assez extraordinaire. Des gens qui parlaient toutes les langues qu'ils ne savaient pas, c'était bruyant. Donc ils ont plutôt interprété ça sur le côté de la moquerie, ils sont pleins de vin doux. Et puis un troisième élément que j'aimerais retirer de ce passage-là, c'était comme un momentum, quelque chose de, comme un mouvement, une impulsion, dans la proclamation des louanges, des merveilles de Dieu. Vous imaginez, les disciples, les gens de l'époque, ils allaient régulièrement au temple pour louer Dieu. Ils chantaient les psaumes. Donc, en soi, de louer Dieu n'avait rien de nouveau. Mais ici, il y a ce phénomène surnaturel, ce momentum, ils louent dans une langue qu'ils ne connaissent pas, mais que les spectateurs ou les auditeurs comprennent. Et puis ce phénomène surnaturel, ce momentum, les disciples sortent de leur chambre, de leur lieu habituel de rassemblement, comme le temple, ici c'est dans un lieu, et leur louange s'entend publiquement. C'est peut-être pour ça qu'on laisse les portes ouvertes ce soir ici aussi. C'était ouvert quand on a loué le Seigneur, c'est juste. Et j'ai un rêve, ou bien j'ai déjà pensé qu'on devrait des fois plus louer le Seigneur dans la rue. Simplement louer Dieu. on fait rien, on proclame les louanges de Dieu dans la rue, et ça peut être un moyen de toucher les gens. Ce n'est pas directement à nous, mais ils sont comme attirés aussi par Dieu vers lequel on adresse notre louange. Donc la louange sort du temple, du lieu où ils étaient rassemblés, peut-être les portes fermées, et tout à coup elle devient publique. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? On va passer à la fin du chapitre. Voilà, là je sais déjà aller trop loin. Voilà. Tu fais toi ou bien? Ok. Voilà, c'est ça. Donc entre deux, il y a, je ne vais pas le lire, il y a ce discours de Pierre hein, qui rappelle finalement, c'est assez incroyable Pierre, hein, la première chose qu'il a fait, il a commencé un discours, et puis il cite beaucoup de textes de l'Ancien Testament, hein, parce que c'était des Juifs qui étaient là. Il devait s'imaginer, il devait faire ce lien. Et il leur a surtout rappelé cette prophétie du prophète Joël, « Dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit. » Donc il y a d'un côté quelque chose de nouveau, quelque chose d'impactant, qui bouleverse tout le monde, et en même temps, il y a une continuité. Pour les Juifs, on viendra tout à l'heure ce que ça a eu comme impact sur eux, mais je pense que c'était inconnu tout en étant compréhensible. À un moment donné, ils ont dit « Ah ouais, c'est juste, le prophète Joël a prophétisé ça plusieurs centaines d'années avant. » Et Pierre, il prononce ça et dit « Mais c'est pas, ça nous a été annoncé, c'était quelque chose qui devait venir, et maintenant c'est là. » Et c'est là qu'il commence à parler, et on dirait aujourd'hui à évangéliser les gens qui étaient là. Alors on va lire ce passage du verset 41 à 47. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Je vais m'arrêter sur un point en particulier que j'ai relu aussi, ce « Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple ». Mais avant ça, juste deux éléments de ce texte qui m'ont parlé. Il y avait d'un côté des résultats, et d'un côté, on voit de la persévérance. Vous imaginez un discours de Pierre rempli d'esprit produit la conversion, ou plutôt le baptême directement ici, de 3000 personnes. On dirait aujourd'hui quel résultat, quelle efficacité, on parle d'efficience aussi. Une personne, 3000. Waouh, hein, ce n'est pas une personne 10 ans après, une deuxième peut-être qui vient à Christ, c'est une 3000. Donc il y a quelque chose d'un résultat, d'une efficacité bouleversant. Alors ce résultat qui est prodigieux ne signifie certainement pas que tout était devenu facile et qu'il fallait simplement continuer de prêcher et de récolter ses fruits mûrs. Certainement qu'ils ont fait ça, hein, qu'ils ont continué de prêcher. Mais on voit ici en même temps, et c'est après ce résultat, à deux reprises, on retrouve le verbe « persévérer ». Donc, ils n'ont pas arrêté ce qu'ils faisaient. Ils ont continué l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Et ils ont continué une troisième chose de persévérer par se retrouver d'un commun accord au temple. Ça, c'est les versets 42 et 46. Là, ils ont continué. On peut s'imaginer que tout à coup, ils se sont dit « Ok, bon, la stratégie qu'on a fait jusque-là, prier tous les jours, aller au temple tous les jours, maintenant, on y va ». On annonce et puis le reste, finalement, c'était un autre temps. Mais ils ont continué. La deuxième chose, j'aimerais relever ici, la crainte, on parle de crainte de Dieu et on parle aussi de solidarité entre les gens. Donc ces conversions, ces baptêmes sont accompagnés de prodiges, de signes miraculés par l'intermédiaire des apôtres, ce qui développe de la crainte en chacun. Et je pense que le surnaturel est un moyen que Dieu utilise pour se faire connaître, pour que les gens se posent des questions, pour que la crainte, alors ce n'est pas la crainte dans le sens une peur de Dieu, mais un profond et sincère respect de Dieu, se développe dans le cœur. Pour entrer en relation de Dieu, il faut respecter Dieu, c'est la première chose, l'honorer, le respecter. Et les signes miraculeux, quand Dieu nous touche, quand Dieu fait des miracles, c'est jamais, ou jamais, on ne peut pas dire jamais, mais rarement, tout qu'on voit dans les évangiles, ce n'est pas juste pour épater la galerie, mais c'est pour nous attirer à lui. Et je pense qu'ici, la crainte s'emparait de chacun, c'est ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Et en parallèle à ce mouvement de crainte de Dieu, ces gens vivent de manière communautaire, solidaire. Ils vont jusqu'à vendre ce qui leur appartient pour le redistribuer à ceux qui sont dans le besoin. C'est un mode de vie, le mode de vie communautaire, on l'a un peu perdu de vue aujourd'hui. Quoique, ça revient un petit peu à la mode, la vie communautaire. Et pas plus tard que quelques jours à Lézin, on parle avec une jeune famille qui est prête à quitter son appartement ou sa maison et à vivre dans un milieu communautaire à Montmirail, ceux qui connaissent. Donc c'est un lieu où la vie communautaire existe, aussi pour les jeunes familles. Et ce n'est pas le seul exemple. Donc il y a peut-être un peu un retour à cette vie qui nous paraît un petit peu, un peu contre-culturelle. Mais non, je pense qu'il y a aussi des possibilités. Et ce qu'on constate dans certains milieux qui redécouvrent ces milieux communautaires, en tout cas dans les milieux évangéliques que je connais mieux, c'est que c'est aussi un moyen pour des gens de se connecter ou de reconnecter à l'Église. Il y a parfois des gens qui ne vont plus à l'Église pour X raisons, et ils peuvent vivre dans un milieu communautaire, découvrir aussi d'une autre manière la vie d'Église, sans être, je dirais, dans le cadre d'une Église avec tout ce qui fait partie de l'Église, qui, eux, ne veulent pas ou peuvent plus s'y retrouver. Donc voilà, la vie communautaire, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé. Les premiers disciples le vivaient de manière assez radicale. Donc ils vendaient tout ce qu'ils avaient. C'est presque une vie très, très, très sociale. Finalement, il n'y a plus de différence. À un moment donné, les riches, ils vendent, on vend ce qu'on a, on distribue tous à la même chose. C'est presque un projet politique que je ne citerai pas ici. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, le verset 47, les premiers disciples avaient la faveur de tout le peuple. Le terme grec traduit par faveur est charis, donc c'est un terme qui est utilisé pour la grâce, les charismes. Et il y a un sens ici, un sens unique dans la Bible qui signifie précisément la faveur, c'est le fait d'avoir une position sociale ou une réputation positive. Donc, ces premiers disciples, ils avaient une position sociale et une réputation positive. Alors pourquoi ? Ça c'est la bonne question. Pourquoi avaient-ils cette réputation, cette faveur de tout le peuple ? Alors la réponse n'est pas explicite ici. Elle n'est pas « ils étaient bien appréciés, bonne réputation parce que ». Elle est plutôt implicite au vu de ce qui est décrit aussi précédemment dans ce passage. Je pense qu'ils avaient la faveur du peuple parce qu'ils voyaient que Dieu était à l'œuvre au travers de gens ordinaires de leur culture. S'imaginer ces disciples, il y avait des pêcheurs, ils étaient tous pêcheurs, mais il y avait des pêcheurs, il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait un peu tous les métiers. Je pense qu'ils étaient plutôt partie des gens ordinaires du peuple. Et ils voyaient qu'à travers des gens ordinaires, quelque chose se passait. Qu'est-ce qu'ils voyaient ? Ils voyaient des vies transformées. Il faut bien s'imaginer que ces disciples, ces apôtres, ils ont été 3 ans quand même avec Jésus. Alors bon, ici, il y avait des disciples qui venaient de la diaspora, qui ne les ont peut-être pas vus évoluer pendant 3 ans, mais quand même beaucoup d'autres les ont vus. Donc ils ont vu quand même ce qui a changé dans leur vie à ces disciples. Et comment ils ont évolué dans leur vie. Et ça devait être visible. Peut-être même qu'il y a des rumeurs qui circulaient jusque-là. Et là, tout à coup, ils voyaient que ce n'était pas des rumeurs, c'était réel, qu'il y avait des disciples qui louaient le Seigneur dans leur langue, qu'il y avait quelque chose de puissant dans ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils voyaient aussi, c'est ce qu'on a dit à des apôtres qui parlaient des merveilles de Dieu dans une langue compréhensible par des juifs de la diaspora. Donc tout à coup, des juifs comprenaient ce qu'ils disaient, et ça les touchait aussi. Et voyez aussi que l'impact allait bien au-delà des capacités humaines. Déjà ça, parler d'une langue qu'ils n'avaient pas apprise. Mais il a aussi dit que c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc tout ce travail d'amener les gens, je dirais, à découvrir le Christ, c'était le Seigneur qui le faisait. Donc ils voyaient aussi, d'une certaine manière, eux ne faisaient pas grand-chose, respectivement, leur pouvoir était limité pour faire ça. Mais le Seigneur attirait ces gens et les ajoutait à l'Église. Dans ce passage, il a aussi parlé d'une joie et d'une simplicité de cœur. Alors c'est plutôt une joie, simplicité de cœur pour prendre leur nourriture. Mais peut-être aussi c'était leur manière d'être. Ils avaient une joie, et peut-être une simplicité de cœur, une façon d'être simple. Et j'ai parfois l'impression que des fois on complique un petit peu les choses. On essaie de faire des concepts pour partager l'Évangile. On essaie d'être, voilà, et parfois une simplicité de cœur, de simplement partager ce qu'on a reçu. Comme Pierre, tout à coup rempli de l'Esprit, s'est mis à parler. Et puis ça a touché les gens. Donc ça, c'est quelques raisons qui me disent que c'est certainement ça qui ont fait qu'ils étaient appréciés, qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Alors la question est pour nous aujourd'hui, est-ce que l'Église, avec un grand cœur, est-ce notre paroisse ici, a la faveur de tout le peuple, de toute la population de Versoix, je prends là, mais ça peut être plus large, est-ce que ce qui se vit dans l'Église touche les gens? Est-ce que nos vies observées par les gens qui nous entourent, ça les questionne, les attire à Dieu? Est-ce que l'Église est appréciée dans la société? Alors ça, c'est des questions qu'on peut se poser parfois sur l'impact qu'on peut avoir aujourd'hui dans un monde particulier, on dit d'un monde séculier, donc dans un monde qui est pas ou plus beaucoup en connexion avec Dieu, respectivement en connexion avec tout ce qui est religieux. Si je prends un peu ces deux aspects, ils persévéraient d'un côté et ils allaient à l'extérieur. J'ai l'impression que la persévérance dans les quatre domaines ici qu'on voit, enseignement, prière, communion fraternelle, fraction du pain, j'ai l'impression que c'est OK. Avec beaucoup d'églises, c'est OK, on prie, on enseigne, on prend la Sainte Cène, on a la communion fraternelle et je pense que c'est bien, on doit continuer. Mais n'oublions pas qu'il y a une mission aussi qui est donnée à l'Église d'être témoin de Jésus dans le monde. Et donc, deuxième volet, notre action d'évangélisation, notre rayonnement vers l'extérieur, quels sont les effets dans ce monde séculier dans lequel on est? J'ai envie de dire qu'à premier abord, on peut peut-être plutôt penser l'inverse, de la faveur. Est-ce qu'il n'y a pas des fois un peu de la méfiance face à l'Église? On parle de toutes les, aussi des choses négatives, des abus qui se passent. Il y a des gens qui ont vécu des choses douloureuses dans l'Église. Donc j'ai des fois plutôt l'impression que pour beaucoup de gens, pas tous heureusement, c'est plutôt des choses, c'est pas forcément la faveur, mais j'ai envie de dire plutôt la défaveur parfois par rapport à l'Église d'aujourd'hui. Au mieux, c'est peut-être de l'indifférence. Au pire, ça peut être une forme d'opposition. On parle des fois de persécution passive aujourd'hui dans notre société. C'est une persécution un peu plus sournoise de personnes qui n'aiment pas trop la foi ou qui sont athées et puis qui essaient de mettre un peu des bâtons dans les roues de manière un peu discrète comme ça. Ça peut être ça. Je rappelle ici que les apôtres, la persécution, ils l'ont vécu après. Donc ils avaient la faveur du peuple, puis en même temps, quand ils ont continué de propager dans les autres villes, c'est la persécution, elle est venue rapidement aussi. Donc c'était une faveur, mais aussi à un moment donné de l'opposition qui s'est levée. J'ai participé avec Catherine, il y avait aussi, on était que les deux finalement, aux 500 ans du mouvement anabaptiste à Zurich. Vous avez entendu parler anabaptiste, mennonite, ça dit à tout le monde quelque chose. Donc ce mouvement qui est né il y a 500 ans. Non, c'est un mouvement de protestants qui a 500 ans, donc en 1525. À un moment donné, ils se sont opposés au fait que l'Église protestante baptisait les enfants. Pour les faire entrer dans l'Église, ils ont passé par le baptême. Mais ils ont dit à un moment donné, non, le baptême doit être quelque chose de personnel, le baptême d'adulte. Et ils sont positionnés, mais ça leur a coûté une persécution. Et ça a commencé par Zurich, Zwingli, hein, il est un peu entre deux, Zwingli, mais à un moment donné, il s'est aussi mis du côté, je dirais, du pouvoir de Zurich. Et ils ont dit, maintenant, dorénavant, la loi, c'est les enfants sont baptisés et tous ceux qui ne respectent pas ça subissent des peines. Et là, il y a eu des fortes persécutions. Ça a aussi été une persécution du côté de Berne, avec tous ces anabaptistes ou mennonites qui ont quitté pour aller se réfugier dans les montagnes jurassiennes. On les autorisait à vivre au-dessus de 1000 mètres. C'était là qu'on les garait, j'ai envie de dire, qu'ils fassent le moins. Ouais, qu'ils soient. Donc voilà, vraiment une persécution. Et puis là, on a assisté à un atelier où ils parlaient du monde séculier, le fait que le monde séculier ne connaît pas ou plus la Bible. Et puis l'oratrice était néo-landaise, elle dit c'est plutôt un peu la Pentecôte inversée. Hein, à la Pentecôte, ils parlaient, tout le monde comprenait. Là, on parle, des fois, il n'y a plus grand monde qui comprend ce qu'on dit. Et que faire ? Alors, c'est la grande question. On a beaucoup discuté, beaucoup sont intervenus. Mais il y a deux choses qui m'ont touché et qui nous donnent aussi de l'espoir, ce que Dieu fait aujourd'hui. Une des voies, il y a des témoignages, se relier par la rencontre. Donc par des petits groupes, dans un petit cercle, avec des gens qui ne connaissent pas l'Église, qui ne connaissent pas la foi. Ce qui permettra d'une part de plus facilement expliquer et de rendre visible notre foi à ceux qui cherchent. Donc un besoin de relation et par ce biais-là, des gens qui aujourd'hui ne comprennent plus l'Église, ne comprennent plus le vocabulaire qu'on utilise, peuvent redécouvrir ça. Et il y avait un autre jeune, peut-être 25 ans, qui est aussi quelque chose d'intéressant, il nous disait, vous les plus âgés, ne déconstruisez pas tout. Moi, je vais dans une église orthodoxe et je rencontre Jésus, il nous dit. Donc vous voyez, la jeune génération a quelque chose de, j'ai envie de dire, de non marqué par l'histoire, d'un peu ouvert comme ça, et ils pouvaient rencontrer comment ? Voilà, il n'y a pas et du coup, par une forme de liturgie, un cadre, certains rites, des habitudes, un peu comme les premiers disciples, ils retrouvent un sens et ils retrouvent Jésus. Donc voilà, un peu de pistes pour dire que voilà, il y a des... c'est pas tout noir. Et il y a des signes d'espérance actuellement. Et je vois aussi en discutant ce week-end à Lézin avec un jeune pasteur, Youssef Sadani, peut-être certains le connaissent déjà, c'est le jeune pasteur qui a été engagé à la rive droite, donc c'est une église de notre famille d'église, une paroisse de notre famille d'église. Il voit des jeunes se convertir, il voit des jeunes qui viennent, qui trouvent Jésus simplement, ils cherchent quelque chose, ils leur témoignent, souvent son témoignage, qui a quelque chose d'assez interculturel, sa femme des origines hindouistes, lui d'origine musulmane, et il parle à des gens de la foi chrétienne. Donc dans un monde qui, voilà, avec des arrière-plans très différents, ils disent, mais nous, on cherche ça. Et des jeunes se convertissent, ils vont chercher d'autres jeunes qui reviennent. Donc ils voient des jeunes, surtout de cette génération des 18-30 ans, génération Z, comme on dit, hein, qui ont besoin de donner du sens à ce qu'elle fait, cette génération-là, qui ont besoin de donner de l'authenticité dans les relations. Donc ils me disaient, ces jeunes ont besoin simplement d'être accueillis, qu'on les honore, qu'on leur annonce l'Évangile, tout simplement. Et puis, de ne pas les laisser seuls. De ne pas les laisser seuls, c'est un élément crucial. Hein, aujourd'hui, le besoin d'appartenance, il est là. De ne pas les laisser seuls quand ils viennent les accompagner. Et donc là, il y a aussi parfois un peu une forme de contradiction à vivre avec. D'un côté, cette génération a besoin d'être proche, de se trouver aussi des lieux où ils peuvent être connectés avec des gens. Et d'un autre côté, il y a parfois aussi un peu un danger potentiel de la proximité dans les églises, voilà, de ce côté de se sentir tout à coup enfermé dans un cadre d'église. Donc ma prière, et je crois que pour nous aussi, que notre église donne toujours ce cadre sécurisant où les jeunes peuvent développer leur besoin d'être ensemble sans crainte d'une quelconque transgression de limite, un abus de pouvoir ou de, voilà, à un moment donné où ces jeunes se sentent enfermés. Et les jeunes ont quelque chose à nous dire, ceux qui découvrent la foi, qui peuvent aussi, ils ont une capacité de Dieu, d'entendre Dieu aussi, qui peuvent nous étonner. Et là, je citerai deux exemples. Vous avez aussi, je pense, entendu Liliane et Pierre-Claude, Anne de Leiser, qui était l'oratrice à Transvision. Je dis rapidement, Transvision, c'est de rencontre des leaders de Suisse romande qui se sont retrouvés avec leurs conjoints 3 jours à Lézin pour être dans la présence de Dieu, échanger et puis voir ce que Dieu veut nous dire. Et puis il y avait une oratrice qui s'appelle Anne de Leiser, qui vient du Pays de Galles, qui est responsable d'un mouvement des maisons locales de prière. Et puis elle a donné deux exemples qui m'ont touché aussi à un moment donné. Elle disait, voilà, elle était sur le point avec son mari de tout arrêter parce que voilà, il n'y a plus les moyens et c'était difficile. Ils avaient pris la décision d'arrêter. Puis un enfant avec qui elle cheminait, je sais pas, qui faisait une retraite là, qui lui a dit quelque chose. Il a juste dit, mais écoute, n'abandonne pas. Donc, puis elle a dit, mais ouais, il m'a touché. Donc c'est un enfant avec toute sa naïveté qui lui a dit, et ça leur a redonné le courage de continuer. Et je ne sais pas, c'était le même enfant qui lui a aussi dit, là, tu as le droit d'être là, tu peux juste être toi-même. Alors, c'est une personne qui n'a pas forcément, qui a toujours besoin d'être validée dans ce qu'elle fait. Puis un enfant lui a dit ça à un moment donné, tu as juste le droit d'être toi-même, tu as le droit d'être là et tu peux juste être toi-même. Donc cette jeune génération, je pense qu'on a une belle génération qui est là. Des signes sont là. On a aussi dans l'église le groupe missionnel Versois, Turning, qu'on va nous offrir cette année. On a déjà fait des rencontres, c'est pas tellement avec des jeunes, en tout cas pas des très jeunes, parce que quand on sort, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes non plus à ces heures-là. Mais on a vu comment des gens étaient prêts à entendre et à être touchés. Et c'est un travail, voilà, c'est peut-être pas toujours la première fois. C'est pas un message et 3000 se convertissent, hein. On a peut-être des fois un peu cet idéal-là. Mais c'est un message qui a besoin d'être arrosé, qui a besoin d'être continué. La personne a besoin de cheminer. Mais il y a aussi des beaux signes de l'action de Dieu dans cette société séculière. Je conclurai par ça. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qu'on a aussi prié, invoqué. Donc, c'est celui qui a été déversé généreusement et avec puissance à Pentecôte, qui a permis que l'Église se mette en marche, hein, qu'elle ait la faveur de tout le peuple en proclamant l'Évangile. Donc ça, c'est le « out », comme on dit au réseau, tout en persévérant dans l'enseignement, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain, tout ce qu'on vit à l'intérieur de l'Église. Et pour poursuivre cette démarche, cette marche, aujourd'hui, je voudrais vous rapporter une des conclusions que nous avons reçues aussi de Transfusion 2025 et qui est directement aussi en lien avec ce momentum, ce temps de Dieu, ce kairos de la Pentecôte et aussi de la Pentecôte, comment aujourd'hui elle a encore tout son impact. Donc, il était dit qu'on est aimé, c'est le point de gauche. D'abord, important d'être aimé. Hein, Dieu nous dit, nous rappelle, tu es mon bien-aimé, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Tu es établi, on est établi dans notre identité, qui on est. Et j'ai envie de dire, après on est envoyé. Alors ce n'est pas forcément chronologique, hein. Je pense qu'on est déjà envoyé, ce n'est pas tu dois d'abord, mais je pense quand même d'être sentir aimé, vraiment aimé pour qui on est en tant que fils et fille de Dieu, d'être établi. Il y a beaucoup d'images dans la Bible qui parlent d'établi, que Jésus est notre rocher sur lequel on est appuyé. Que nous sommes ses enfants, qu'on a notre identité comme fils et fille de Dieu. Ça nous établit. Et nous sommes ensuite envoyés dans le monde pour vivre et partager l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ma prière pour nous ce soir, c'est celle qui se trouve dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Une des caractéristiques du royaume de Dieu, qu'on a aussi entendu dans notre week-end, c'est plein quand ça déborde. En général, c'est plein quand c'est plein. Donc là, puis après c'est plein, puis on s'arrête. Mais avec Dieu, c'est plein quand ça déborde. C'est comme s'il y a quelque chose qui coule, et quand notre cœur est plein, que ça déborde et que ça touche aussi les personnes. Voilà. Et j'aimerais maintenant passer un temps de prière avec vous. Et j'avais j'aimerais que vous partagiez cette image, être baptisé ou rebaptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est la source d'une rivière qui se trouve, rivière La Colline, dans la combe de Créva, si vous souhaitez avoir le lieu précis, c'est en Trélé-Givrin. Elle m'impressionne, cette rivière, parce que des fois, je passe. Ça a un bruit dans cette vallée, c'est très tumultueux, la rivière, tout. Et puis ces jours, je passe, il n'y a rien, quoi, ou quasiment rien. Donc elle est très variable, le débit. Et puis j'ai trouvé une photo de la source. Donc ça semble être une source qui est assez variable. Et du coup, les effets, je me dis, les effets de cette source sur l'environnement qui est en dessous, se voient. Et on le voit tout de suite quand il y a une source, quand la source déborde ou si elle est juste un tout petit peu. Bien, qu'on puisse ce soir aussi prier pour que cette source, peut-être qu'elle est là, elle est peut-être juste pas, elle déborde juste un petit peu, ou on a l'impression qu'elle est juste là, puis qu'on déborde pas grand-chose, que notre vie, elle a besoin de porter du fruit. On a besoin aussi que ce qu'on vit soit aussi impactant pour ce qui est autour de nous. On a besoin de voir quelque chose de l'action de Dieu, qu'on puisse aussi prier pour ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une baguette magique, c'est la personne de Dieu. Et donc si c'est prier pour recevoir ce feu de Dieu, ce feu d'espérance qui nous donne ensuite cette passion pour suivre aussi Jésus. Et l'appel pour nous ce soir, c'est toujours suivre Jésus en n'oubliant pas qu'il y a d'autres autour de nous qui ont besoin de ce feu d'espérance dans leur vie. La rivière est là, notre cœur est connecté à la source, mais on a parfois besoin de demander intentionnellement à Dieu de nous baptiser, de nous rebaptiser de son esprit. On parle ici de joie, de paix. Ça, c'est un des fruits, c'est des fruits de l'esprit hein, qui agit aussi au travers de nos vies pour donner de l'espérance à ceux qu'on... On a parlé de paix aussi durant le temps de louange. L'Esprit de Dieu peut être cet esprit qui nous apaise, qui peut être cet esprit qui nous donne la joie aussi dans tout ce que l'on vit. Et c'est ça qui sera aussi finalement visible par les personnes que nous côtoyons. S'il y a des personnes parmi nous, je ne sais pas, qui ne sont jamais connectées à Dieu, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont jamais connectés à Jésus, je ne connais pas votre cœur, je vous invite simplement à le faire, d'accepter ce cadeau de Jésus dans vos vies. Hein. Ce cadeau qu'on est pardonné par Jésus, qu'on est sauvé grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Et si l'une de ces personnes souhaite aussi en parler avec moi à la fin du culte, voilà, si elle souhaite aussi discuter avec moi, elle n'a peut-être pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus, je suis aussi disponible pour prendre un temps avec vous. Voilà, je vous invite à prier maintenant pour ce temps. Je vous invite à vous lever. Et on va prier ensemble. Seigneur, alors que nous nous rappelons cette Pentecôte, cette action puissante de cette effusion du Saint-Esprit, nous voulons ce soir te demander de nous baptiser, de nous rebaptiser de ton esprit. Nous voulons que nos vies débordent d'espérance. Nous voulons que ceux que nous côtoyons, que ceux qui passent devant notre église, ceux dans ce quartier, que nos voisins, que nos familles, que nous soyons des témoins pour eux de ce que tu fais dans nos vies et que nous soyons aussi des porte-paroles du message de l'Évangile, Seigneur. Eh bien, ma prière pour nous ce soir, c'est que tu nous baptises, tu nous remplisses à nouveau de ton Esprit Saint. De ton Esprit Saint qui vient nous remplir nos cœurs, remplir notre corps aussi, remplir notre esprit, Seigneur, et que ça puisse déborder. Merci Jésus. Amen.